Bonjour, je m'appelle Dylan, je suis au collège Louis Armand en classe de 3e. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enregistrement de notre deuxième émission de radio. Mais celle-ci n'est pas comme les autres, car elle est consacrée exclusivement au thème de la résistance. Mais résistance au sens large, car nous sommes partis de l'histoire pour voir comment on peut résister à notre époque et contre quoi. Tout de suite, nous allons commencer avec la chronique Société. Nous allons être accompagnés de Marine, Wissal et Najwa qui vont nous expliquer le sens de l'histoire et du mot résistance.
Notre sujet, c'est la résistance. La résistance, c'est l'ensemble des moyens et des actions qui sont employés pour lutter contre des formes d'agression et des injustices. Résister par le combat, résister pacifiquement et résister par l'art et la littérature sont autant des moyens de défense pour faire valoir nos droits.
Alors, au départ, le terme de résistance était plutôt utilisé pour la lutte contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, dans divers pays de l'Europe où l'Allemagne fut dominante. De nos jours, la résistance désigne aussi un mouvement social, souvent inorganisé et par lequel les populations occupées tentent de maintenir leurs valeurs et de manifester leur refus face à l'oppression. Cette résistance revêt des formes violentes ou non violentes.
Nous allons vous parler dans un premier temps des formes de résistance. Connues jusqu'ici, souvent ce sont des résistances armées. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des nouvelles formes de résistance, sans l'usage des armes ni la violence. Ce sont des résistances pacifiques. Tout d'abord, la résistance, c'est bien l'ensemble des combats menés au nom de la liberté, de la patrie, de la dignité humaine. Contre l'occupant, résister et lutter pour la vie sont communs à tous les individus. De 1939 à 1945, on parle de résistance, de résistants français. On distingue deux ensembles, une résistance extérieure et une résistance intérieure. La résistance extérieure a commencé en effet le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle à Londres sur la radio anglaise, la BBC. C'est une résistance militaire.
La résistance intérieure française, quant à elle, elle désigne l'ensemble des mouvements ainsi que les réseaux clandestins. Durant la Seconde Guerre mondiale, on poursuivit la lutte contre l'Allemagne sur le territoire français. Cette résistance intérieure, elle a commencé à se manifester par des actes isolés dès juillet 1940. Il y a eu des distributions de tracts, des inscriptions sur les murs et des actions de sabotage.
Mais finalement, qui étaient ces résistants? Alors les résistants, c'était des hommes et des femmes de tout âge, mais souvent jeunes, voire très jeunes. Ils étaient issus de toutes les couches sociales, de toutes les sensibilités politiques et religieuses. Il y avait des étrangers et des soldats qui étaient alliés et qui ont aussi combattu aux côtés des résistants français.
Volontaires engagés dans l'action, clandestines, les résistants risquaient à tout moment d'être dénoncés, arrêtés, torturés, emprisonnés ou exécutés ou déportés. Ils constituaient une toute petite minorité courageuse. Mais cela dit en temps de non-guerre, il existe une autre forme de résistance qu'on peut qualifier pacifique.
L'idée de la résistance pacifique, depuis longtemps, elle démontre son efficacité. En fait, elle consiste à procéder par des manifestations non-violentes, telles que les manifestations pacifiques dans les rues, la désobéissance civile et les débats publics.
La résistance pacifique utilise généralement des moyens pacifiques sans user de la violence. C'est un des traits qui la distingue de la révolution et d'autres formes de lutte qui, pour arriver à ses fins, peut en appeler à la force. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance a pu englober aussi des aspects plus civils et non violents comme l'existence d'une vaste presse clandestine, la diffusion de tracts, la production de faux papiers, l'organisation de grèves ou des manifestations, la mise sur pied de multiples filières pour sauver les prisonniers de guerre, évadés et les juifs persécutés.
Selon Max Weber, cette résistance peut être physique mais aussi symbolique, c'est-à-dire psychique, voire souvent économique avec le boycott. C'est principalement Gandhi en Inde, Martin Luther King aux États-Unis, Mandela en Afrique du Sud, les grands-mères de la place de Mai en Argentine et les contestations du pouvoir soviétique dans les années 1980 qui ont montré l'efficacité. Les manifestations pacifiques sont en général utilisées par les militants pacifistes qui remettent en cause l'esprit et les motifs de l'usage de la violence.
De nos jours, il existe plusieurs formes de résistance pour toutes les causes. Aujourd'hui, la manière de résister, elle a changé et s'exprime par différentes manières. Il y a eu des évolutions. On résiste par la lutte pour la vie ou pour la survie, pour lutter pour les valeurs morales, les valeurs sociales et familiales. On peut résister par l'écriture, par l'art, à travers des associations, la sensibilisation et même par la communication médiatique.
Par exemple, il y a les ONG qui sont des organisations à but non lucratif qui participent à une ou plusieurs luttes. Elles s'engagent et donc résistent pour une cause, comme en France les Enfants du Désert, qui est une ONG qui lutte pour que les enfants aient accès à l'éducation. Il y a la résistance par la littérature, avec par exemple les poètes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la résistance par l'art, comme les célèbres tableaux d'Autodix de Picasso qui dénoncent les horreurs des guerres.
Nous avons donc pu vous montrer les différentes formes de résistance et leur évolution durant toutes ces années, ainsi que les différentes personnes qui peuvent mener les actions de résistance, allant des armées contre l'occupation, des peuples contre l'abus de pouvoir ou des simples individus contre les injustices quelconques.
Ainsi, la résistance est à la fois une lutte armée et une lutte sociale contre l'occupation, contre les dictatures, contre le racisme et contre l'oppression.
De nos jours, résister, c'est aussi lutter contre toute forme de privation, de liberté et des droits, contre les abus et aussi l'exploitation.
Mais si la résistance pacifique est un moyen de lutte pour protester contre une injustice, elle a parfois montré ses limites. Notre rôle à tous est de nous demander comment faire en sorte que cette résistance qui freine l'usage des armes puisse être réellement efficace.
Et est-ce que vous avez un avis sur le sujet ?
Alors moi, personnellement, je pense que la résistance, c'est une grande lutte qui est présente chaque jour, qui permet la liberté d'expression et ainsi, elle permet l'évolution du monde.
Pour moi, la résistance est utile pour nous tous, car elle permet de nous exprimer pacifiquement quand nous ne sommes pas d'accord sur une ou plusieurs idées.
Je partage les mêmes avis que Marine et Najwa, et je rajoute aussi que la résistance a été une grande arme pendant l'occupation pour faire passer un message. Il est donc important de continuer à résister à notre époque.
Merci Wissal, Marine et Najwa pour ces informations sur l'histoire du mot résistance. Maintenant, pour la chronique culture. Voici Florent, Iliès et Nicolas qui vont nous parler de la résistance par l'art et la littérature.
Résister veut dire qu'il faut combattre et résister aux influences négatives. Dans un premier temps, nous allons vous parler des artistes et comment ils ont résisté à leur façon par l'art et la littérature. Et dans un second temps, nous allons vous présenter quelques œuvres engagées qui nous ont touchés particulièrement.
Tout d'abord, l'art permet de résister pacifiquement. Il y a plusieurs formes de résistance par l'art. Les principaux sont la peinture et les textes. Beaucoup d'artistes ont utilisé leurs œuvres pour résister et faire passer des messages. Ils se battaient contre l'occupation avec leurs plumes ou leurs pinceaux. Cela donne plus de force et d'efficacité à leurs messages car ils touchent un public plus large.
Puis, l'art a permis de résister activement ou passivement. Certains artistes se sont engagés physiquement dans les réseaux résistants comme Robert Desnos, mais d'autres ont résisté passivement, c'est-à-dire juste avec leurs œuvres. Le but le plus fréquent de ces artistes était de témoigner, de tenir face à l'horreur, par exemple pour les personnes déportées dans des camps, mais aussi de lutter contre l'ennemi en exprimant leur révolte, en faisant appel au patriotisme, en faisant passer des messages de liberté.
L'œuvre qui m'a le plus touchée, c'est « La guerre » d'Autodix. Ce tableau dénonce bien toute l'horreur de la guerre et résume ses différentes étapes de l'engagement de la mort.
En ce qui me concerne, c'est le poème « Courage » de Paul Éluard que j'aime le plus. D'abord, parce que Paul Éluard est un poète engagé qui a résisté grâce à ses poèmes. Puis ce poème me plaît car il y a de nombreuses figures de style comme les métaphores, les anaphores qui donnent un rythme et insistent sur la situation de Paris. En plus, Paul Éluard décrit Paris comme si c'était une personne. Cela nous touche plus et on ressent mieux la souffrance de Paris sous l'occupation nazie. Si j'avais été un résistant, ce poème m'aurait donné du courage, le courage de continuer le combat pour ma patrie.
Pour ma part, personnellement, j'ai choisi Le Chant des Partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon. J'aime les paroles de cette chanson qui ont pour but de motiver les Français à se mobiliser et à combattre les Allemands qui avaient envahi le pays. Cette chanson ressemble à un discours car elle parle directement au peuple français. principalement à une catégorie de la population, les ouvriers et les paysans. Si j'avais existé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, cette chanson m'aurait motivé.
Merci à vous. Vous nous avez prouvé que l'art et la littérature peuvent être des armes et des actes de résistance. Pour la chronique Micro-Totoir, nous accueillons Soukaina et Iman. On va découvrir quelques portraits des grands résistants, suivis d'un micro-trottoir pour savoir ce que veut dire résister pour les gens.
Bonjour, nous allons faire le portrait de plusieurs grands résistants, des résistants de la Seconde Guerre mondiale et des résistants de notre époque. Tout d'abord, nous allons vous présenter les différentes biographies.
Nous avons choisi de vous présenter quatre grandes personnalités car elles sont des exemples. Elles ont donné leur vie pour défendre leurs idées de paix, de solidarité et de liberté. Charles de Gaulle, né en 1890, mort en 1970, le général Charles de Gaulle est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Il a refusé l'occupation nazie, le régime de Vichy et a appelé à continuer la guerre et former les forces françaises libres. Son appel du 18 juin 1941, diffusé par la BBC pour le premier anniversaire de la France libre, est très célèbre et a fait du général le père de la résistance. De 1959 à 1969, de Gaulle est devenu le premier président de la Ve République.
Jean Moulin, né en 1899 et mort en 1943, c'est un politicien français qui a été nommé en 1939 préfet d'Eure-et-Loire. Il a rencontré le général Charles de Gaulle, qui lui a chargé d'organiser la résistance. À lui seul, il a unifié la résistance au sein du CNR, Conseil National de la Résistance. Arrêté par le Gestapo, il est mort le 8 juillet 1943. Mandela, né en 1918 et mort en 2013, il s'est battu contre l'apartheid et pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. En Afrique du Sud, il y avait toute une série de lois contre la ségrégation. Nelson Mandela est devenu vice-président de ANC, African Nation Congress. Il a essayé d'unir toutes ses forces anti-racisme contre les militants blancs. Il est arrêté par la police sud-africaine et a passé 27 ans en prison à faire des travaux forcés. Il est devenu le symbole de la lutte contre le racisme. Relâché en 1990, premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Pendant les années 2000, il s'est aussi engagé contre la lutte contre la pauvreté et le sida.
Aung San Suu Kyi est née le 19 juin 1945 à Rangoon, en Birmanie. C'est la fille du général Aung San, le leader de l'indépendance birmane, qui a été assassinée par des ennemis de l'opposition. Elle s'est battue pour la démocratie dans son pays et a passé 21 ans dans une résidence surveillée.
Voilà, vous avez pu prendre connaissance des grands engagements des résistants qui ont permis de construire l'histoire d'aujourd'hui.
Mais nous sommes aussi allés dans la rue pour interroger des passants au hasard pour tester leurs connaissances sur la résistance et ses grandes figures. Nous avons eu plusieurs réponses des personnes interrogées sur ce sujet.
Qu'est-ce que la résistance pour vous ?
Empêcher quelque chose par un acte, par des paroles.
Se battre contre l'oppression et défendre la liberté.
Si c'est au niveau historique, évidemment, c'est toujours un rapport avec les guerres, notamment la seconde. Après, il y a plein de résistances possibles dans la vie. Des choses peut-être qui vous gênent et contre lesquelles vous voulez vous battre, il faut vous faire preuve de résistance.
C'est des personnes qui combattaient les ennemis pour libérer la France.
La résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé de s'opposer, qui iraient à l'occupation de la France et qui ont décidé d'agir donc pour essayer de la faire libérer le plus rapidement possible.
Défense de valeurs, ils sont des principes de vie, quoi.
C'est quoi, tu te bats pour une cause ?
Pour quelle cause résisteriez-vous ?
La liberté.
Bah, pour toutes les causes justes. Alors en ce moment, il y en a plein, certainement, pour lesquelles on peut s'investir. Je dirais la lutte contre le racisme, la lutte contre les inégalités, les droits de la femme, etc.
Contre une perte de liberté, contre une dictature, des injustices.
Pour défendre son pays.
Si jamais la liberté de la nation était engagée, je pense que oui, je m'engagerais à résister.
Ma liberté, ma famille, mon pays.
Pour la vie, pour la liberté.
Que pensez-vous des résistants ?
Courageux et ils ont de l'honneur.
Je les admire, je pense que ce sont des personnes qui ont des valeurs et qui les défendent.
Bah, c'est des personnes qui avaient beaucoup de fierté et qui se sont battues pour leur pays, quoi.
Ben, qu'ils sont courageux, enfin du moins ceux qu'on a connus. C'était vraiment des gens courageux parce que dans les conditions dans lesquelles ils étaient obligés d'intervenir, ils risquaient leur vie, ni plus ni moins, pour les autres.
Eh bien, si leur cause est juste, s'ils font ça pour le bien de tous, je trouve que c'est une bonne manière de résister. Mais il y a différentes formes de résistance. Il y a la résistance pacifique, il y a la résistance culturelle.
Ils ont du courage de se battre. Heureusement qu'ils étaient là, hein, voilà, la résistance en France.
Pouvez-vous nous citer deux noms de grands résistants et ce qu'ils ont fait ?
Jean Moulin, il est connu à Dreux, il est à Chartres.
Alors, je citerai Jean Moulin, qui était le chef de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, Guy Môquet, parce que c'était quelqu'un de très jeune et qui est mort pour ses convictions, et dans la même période d'ailleurs.
Jean Moulin.
Il y a le général de Gaulle, hein, c'est le premier des grands résistants. Oui. Ben, le général de Gaulle, c'est lui qui a créé la résistance, qui a été un peu le chef de la résistance de Londres. En fait, il a un peu guidé tout ça.
Il y a Jean Moulin, qui est un résistant de l'Eure-et-Loire. Elles sont demandées là, qui ont résisté contre les totalitarismes de leur temps et qui ont donné une vraie liberté à leurs contemporains.
On a des résistants, il y en a eu énormément. Bon, il y en a un qui est bien connu ici en Eure-et-Loire, qui est Jean Moulin, qui était préfet d'Eure-et-Loire. Les frères Manoukian, par exemple.
Jean Moulin, colonel Rémy, qui était résistant, qui était responsable de réseaux souterrains, et voilà. Donc.
Jean Moulin, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il était le patron des résistants.
Il y a plein de femmes aussi, j'ai pas les noms en tête, mais il y a beaucoup de gens qui sont battus, hein, heureusement.
Avez-vous déjà entendu parler de Aung San Suu Kyi ?
Oui, tout à fait, oui, prix Nobel de la paix. Il a également défendu son pays et ses valeurs.
Aung San Suu Kyi, oui. Oui, elle a été emprisonnée pendant plus de 20 ans, je crois, justement, parce qu'elle essaie de faire venir la démocratie dans un régime qui est particulièrement autoritaire et dictatorial.
Finalement, on s'est rendu compte que les gens ne savent pas grand-chose.
Merci, Sukaina Ayman. C'est très intéressant de savoir ce que les gens pensent sur les portraits des grands résistants. Place à Yacine et Moussa pour la chronique « Vie du collège », qui vont nous expliquer l'éducation à la citoyenneté. C'est une expression qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?
L'éducation à la citoyenneté, c'est la société, elle fixe les règles, elle définit nos devoirs et droits, donc être citoyen, c'est les respecter. Mais qui doit éduquer à la citoyenneté ? Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est la citoyenneté, puis le rôle de la famille et de l'école dans l'éducation à la citoyenneté. Et pour finir, nous expliquerons comment on peut être citoyen à notre âge.
Qu'est-ce que c'est la citoyenneté ? Vivre ensemble, ça prend tous les jours. Vivre avec les autres, c'est vivre en société et donc il faut adopter une certaine conduite et respecter des règles. C'est un peu comme un jeu de société. Si on respecte les règles, on s'en sort bien, mais si on ne les respecte pas, on finit seul ou en prison. Dans la citoyenneté, trois mots sont importants. Liberté. D'après la Déclaration des droits de l'homme, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres, à ses opinions, au respect de la vie privée et le droit à la propriété. Et chacun peut être électeur à l'âge de 18 ans ou se présenter comme un candidat politique. Égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine, de race ou de religion. La loi est la même pour tous. Les hommes et les femmes ont dans tous les domaines les mêmes droits et l'instruction, c'est-à-dire l'école, est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Fraternité. Tout citoyen français participe à la défense et à la cohésion de sa nation.
Quel est le rôle de la famille et de l'école dans l'éducation à la citoyenneté ? L'éducation commence à la maison. Nos parents nous incluent des règles et des valeurs comme le respect de l'autre, du matériel, la politesse. La différence entre le bien et le mal, etc., etc. Mais l'école a aussi un rôle important à jouer, car on y pense beaucoup de temps et elle nous apprend la citoyenneté et le respect des valeurs de la République. Par exemple, les professeurs d'histoire nous donnent des cours d'éducation civique. Tous les professeurs et les documentalistes nous apprennent à être critiques par rapport aux images et informations qu'on trouve sur Internet ou à la télé pour éviter de se faire manipuler. En EPS, on apprend à jouer en équipe, à s'entraider. En bref, c'est le devoir de l'école, de nos parents, de nous éduquer à la citoyenneté.
Comment être citoyen à notre âge ? On peut être bénévole, adhérent à des associations, mais à notre majorité, on pourra aussi voter, entrer en politique, À tout âge, on peut adhérer à une association et participer ou soutenir les activités qu'elle propose. Quand on est bénévole dans une association, on le fait sur son temps libre et gratuitement pour mener à bien une action collective. Un million d'associations existent comme les Restos du Cœur, l'UNICEF. Il existe des associations petites ou grandes dans tous les secteurs, au sein desquelles on peut choisir le temps qu'on veut se consacrer à cet engagement et les responsabilités qu'on veut y prendre. À l'école, on peut être délégué de sa classe pour représenter ses camarades auprès de la communauté éducative et leur transmettre des informations. De plus, le foyer socio-éducatif comporte généralement plusieurs clubs d'activités qui peuvent être proposés et même animés par des élèves. L'association sportive scolaire est un autre moyen de participer à des activités collectives. On peut aussi tenir compagnie à des personnes âgées en maison de retraite. Il y a donc plein d'actions possibles. Il suffit de se renseigner autour de soi.
En conclusion, la citoyenneté s'apprend dès le premier âge, mais c'est tout au long de la vie qu'on doit l'appliquer. Mais il faut aussi savoir s'engager dans des manifestations ou autres. Et c'est grâce à la citoyenneté que nous pouvons vivre en société, en se respectant les uns et les autres.
Pour ma part, je pense que la citoyenneté sert dans la vie grâce à nos parents, qui ont su nous guider vers de bonnes choses, et quand je serai majeur, j'irai voter.
Merci Yacine et Moussa. Maintenant, je suis un peu plus informé sur l'éducation à la citoyenneté. Et maintenant, nous continuons avec Moussa et moi pour la chronique environnement. Nous allons vous parler de la résistance à la société de consommation qui nous manipule tous, surtout nous les jeunes.
De nos jours, les gens consomment sans réfléchir et sans en avoir toujours besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que nous vivons dans une société de consommation, c'est-à-dire une société qui nous pousse à acheter de plus en plus. En fait, la société crée le besoin d'acheter toujours plus sans qu'on en ait forcément besoin. Mais il y a une autre façon de consommer, c'est la consommation éthique.
Qu'est-ce que consommer ? Consommer, c'est acheter des produits, mais il y a plusieurs façons de consommer. Souvent, on fait des achats parce qu'on en a besoin, comme de la nourriture, les vêtements et les boissons. Mais on consomme aussi parce que ça nous donne une impression d'importance. On estime que 30 à 40% des achats sont des achats faits sans besoin, sous l'effet de l'émotion. La société actuelle nous pousse à consommer par l'intermédiaire de la publicité à la télé, sur Internet, sur les affiches publicitaires, dans les magazines, avec les stars comme les modèles, avec les soldes et les démarques. En plus, dans les magasins, le caddie remplace souvent les cabas pour prendre plus de produits sans s'en rendre compte.
Quelles sont les conséquences de la société de consommation ? D'abord, il y a un effet sur notre porte-monnaie et le risque d'être surendetté. Mais il y a surtout des impacts sur l'équilibre écologique en général, car il existe actuellement de nombreux problèmes liés à un excès de consommation des ressources naturelles et la plupart des processus de production produisent de la pollution. Nous nous sommes plus intéressés aux conséquences qu'ont les activités humaines sur l'environnement, comme la déforestation, la pollution, la surpêche, la sécheresse, avec le réchauffement climatique, mais il y a aussi un impact sur les humains, comme le travail des enfants, l'esclavage. Car pour consommer plus, il faut fabriquer des produits en grande quantité, souvent dans des pays sous-développés, pour avoir une main-d'œuvre pas chère qu'on peut exploiter. Il est donc important de savoir comment nos produits sont fabriqués, c'est ce qu'on appelle la transparence. On devrait pouvoir choisir nos produits en sachant dans quelles conditions ils sont venus jusqu'à nous. Comment les animaux qu'on mange ont-ils été élevés et abattus ? Les travailleurs qui fabriquent les produits qu'on consomme ont-ils été correctement traités sans mettre leur santé en danger ? C'est pourquoi il faut privilégier l'achat de produits avec des logos tels que EcoCert, Bioéquitable, Équitable EcoCert, Fair for Life, Fair Trade, UTZ Certified, c'est qu'on appelle le commerce éthique.
Qu'est-ce que précisément le commerce éthique ? Le commerce éthique vise à favoriser et développer des bonnes conditions de travail chez les producteurs. La notion d'éthique vient du grec et possède une connotation moins péjorative que le mot moral. Cette notation se réfère à une certaine idée de bien. En fait, les gens consomment de façon éthique pour conserver l'environnement, pour aider à financer les petites entreprises et pour respecter les droits des animaux et aussi les droits humains. Car le commerce éthique garantit des conditions de fabrication respectueuses de l'environnement et des ouvriers. Prenons comme exemple le cobalt qui est utilisé dans les produits multimédia comme les smartphones. C'est en RDC, République démocratique du Congo, que les minerais toxiques sont extraits par des enfants. Ce cobalt sert entre autres à fabriquer les batteries rechargeables de nos appareils électroniques. Autre exemple, on détruit la forêt amazonienne pour planter du soja afin de nourrir plus de poulets d'élevage en batterie. Alors qu'aujourd'hui, des gens au Brésil meurent de faim et les êtres vivants de la forêt voient leur espace de vie diminuer, pour le bien de tous, il est donc important de consommer selon le commerce éthique.
Comment ne pas tomber dans le piège de la société de consommation ? Alors, si vous êtes du genre à vous laisser tenter facilement, faites preuve d'ingéniosité. Laissez par exemple vos cartes de crédit à la maison si vous accompagnez quelqu'un au centre commercial. Puis, prévoyez dans votre budget un montant précis pour vos dépenses personnelles et conservez ce montant en argent dans votre portefeuille. Limitez-vous à cet argent pour effectuer vos achats. Enfin, identifiez un projet qui vous tient à cœur et fixez-vous un échéancier pour l'atteindre. Déposez une somme prédéterminée et tout l'argent personnel non dépensé dans un compte d'épargne dédié à ce projet. Une autre solution est de consommer des produits de saison et d'acheter des produits locaux, c'est-à-dire des produits fabriqués près de chez nous.
En conclusion, maintenant on va faire attention à ce que l'on achète et surtout à ce que l'on consomme. Et on espère que vous aussi, vous allez faire attention à votre façon de consommer.
Je pense que grâce à ce projet, je vais faire plus attention à ce que je vais consommer. Ce projet m'a vraiment incité à être plus vigilant car on achète sans se poser de questions, sans chercher à savoir d'où le produit vient et qui l'a fabriqué, ni dans quelles conditions. Je vais aussi en parler à mes parents, à mes proches pour leur dire comment ils doivent consommer. Un conseil, lisez bien les étiquettes lorsque vous achetez des produits.
Merci beaucoup Moussa. Dans la chronique Zoom sur, nous nous sommes aussi intéressés à un problème d'actualité qui nous menace, le risque de radicalisation et ses conséquences. Voici Kenza et Aimé qui vont nous informer sur le sujet et la façon de résister à la radicalisation et aux amalgames.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité très sensible, la radicalisation et ses amalgames. La radicalisation se traduit par un changement de comportement rapide, ce qui cause le rejet de la loi et entraîne de la violence au nom de Dieu, mais la radicalisation ne doit pas être confondue avec l'islam. Nous avons essayé de comprendre comment et pourquoi les jeunes se font manipuler et tombent dans l'islam radical. Et pour clôturer ce sujet, nous allons voir comment lutter contre cette radicalisation.
Tout d'abord, les personnes qui rejoignent les groupes terroristes ou islamistes sont majoritairement des jeunes, parfois mineurs. D'après le site Stop Djihadisme, près de 600 Français se trouveraient aujourd'hui en Syrie ou en Irak. Les jeunes qui ont été radicalisés et convaincus de partir sont issus de tous les départements, y compris d'outre-mer, de tous les milieux, favorisés comme défavorisés, urbains comme ruraux, des centres-villes comme des banlieues. Internet est le meilleur moyen de recrutement utilisé par les islamistes. Ils y font leur propagande via des sites, des forums, des services de messagerie, des vidéos, des réseaux sociaux et même des sites de rencontres. Internet est donc l'outil le plus efficace pour faire circuler des messages adaptés aux jeunes que les radicalisés veulent attirer. Dans ces messages et cette propagande, les recruteurs promettent un avenir, un idéal ou une cause à défendre. Mais la réalité est loin d'être un paradis. Là-bas, les jeunes ne rencontreront que manipulation, barbarie et mort. Ainsi, beaucoup de jeunes sans connaissance de l'islam et croyant à ce monde idéal mensonger basculent dans un processus de radicalisation violente. Ce qui est étonnant, puisque ces jeunes disent agir au nom de l'islam alors que la religion musulmane, comme toutes les autres religions, prône la paix et la fraternité.
En effet, ces jeunes sont des proies faciles pour les recruteurs vu qu'ils sont un peu perdus, déboussolés. La plupart de ces personnes étaient ex-délinquants ou des ex-prisonniers qui ont découvert l'islam en prison auprès d'une personne en rupture avec la société et pensant se racheter et réparer leurs erreurs en combattant aux côtés des islamistes. Personnellement, lorsque je vois une vidéo de propagande ou une vidéo d'exécution, je vois cela comme de la violence gratuite, comme de la pure barbarie. Mais ces vidéos peuvent aussi être vues par certaines personnes comme une sorte de justice filmée.
Puis, le processus de radicalisation n'est pas toujours visible, mais lorsqu'il est visible, il est urgent de réagir. C'est pourquoi, pour contrer cette radicalisation, le gouvernement a mis en place plusieurs actions adaptées comme la création d'une association nationale musulmane nommée Association de la prévention de la violence et du radicalisme, le lancement d'un colloque national afin de comprendre la radicalisation chez les adolescents, le développement des moyens de communication sur Internet aptes à rivaliser avec des sites extrémistes. Le lancement d'un numéro vert gratuit pour signaler les dérives radicales islamistes, mais cette fois dans le but d'aider les familles confrontées à ce problème de radicalisation. L'instauration d'une formation continue, courte et ciblée pour aider les imams et les aumôniers de prison à repérer et à traiter les cas de dérive radicale.
En conclusion, nous avons pu constater lors de nos recherches qu'il y a un profil type du futur, islamiste. Principalement des personnes qui ont eu un passé difficile, qui sont souvent en rupture avec leur famille et fragiles psychologiquement. Elles sont à la fois rejetées par la société et par le gouvernement et deviennent donc une cible de choix pour les radicaliser. Il est urgent que l'État applique les mesures vues précédemment pour lutter contre la radicalisation et soutenir ces personnes en difficulté afin qu'elles s'insèrent dans la société. Mais une question reste en suspens. Comment se fait-il que des Français partent en djihad sans se faire repérer? Surtout des adolescents mineurs non accompagnés de leurs parents. Ne faudrait-il pas réinstaurer la procédure supprimée en 2013 qui exigeait une autorisation écrite par des parents pour toute sortie du territoire d'un mineur? Cela permettrait au gouvernement d'avoir un contrôle sur les départs des mineurs et de réduire ainsi leur possibilité d'aller faire le djihad en Syrie ou Irak.
Merci Aimé et Kenza. Je pense que c'est très important d'informer les jeunes de la radicalisation et comment empêcher l'extrémisme. Aujourd'hui, comme notre mode de vie et le choix de notre société ont une influence sur notre santé, la chronique santé avec Aimé et Marine va nous montrer comment résister à la médecine conventionnelle en privilégiant la médecine alternative.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médecine douce et de la médecine conventionnelle.
La médecine en général est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Elle peut être moderne, conventionnelle ou non conventionnelle, aussi traditionnelle et alternative, etc.
Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle manière de soigner qui s'instaure de plus en plus en France, mais aussi dans le monde, qu'on appelle la médecine douce, c'est-à-dire guérir sans médicaments. Et nous avons cherché à savoir si la médecine douce a su s'imposer face à la médecine conventionnelle.
En premier, nous vous parlerons de l'histoire de la médecine, puis les différentes pratiques médicales de la médecine douce, et enfin du développement de cette méthode naturelle.
Tout d'abord, nous allons vous parler de la médecine en général. Il existe deux formes de médecine, la médecine conventionnelle et non conventionnelle. Quant à la médecine non conventionnelle, elle est apparue à la préhistoire au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sous le règne du roi Babylone, on soigne les malades avec des plantes.
Au XIXe siècle est apparue la médecine dite conventionnelle, créée par Louis Pasteur. La médecine conventionnelle utilise des médicaments, des antibiotiques, des vaccinations, des anesthésies. Mais de plus en plus de patients rejettent cette médecine traditionnelle, soit parce qu'elle ne guérit pas, soit parce qu'ils veulent une médecine non conventionnelle pour se soigner.
La médecine non conventionnelle, dite médecine douce, utilise plutôt des méthodes naturelles. Par exemple, il y a l'acupuncture qui consiste à appliquer des aiguilles spéciales à certaines parties du corps pour réguler les flux énergétiques.
L'homéopathie, méthode par laquelle on soigne le mal du patient par une substance végétale, animale ou minérale, qui provoquerait les mêmes symptômes chez un individu sain. Mais aussi la thalassothérapie, l'hypnose ou la sophrologie pour apprendre à se détendre. Ou encore la phytothérapie qui consiste à faire des soins par des plantes médicinales. Dans notre société, on remarque une forte hausse de la médecine douce. 4 Français sur 10 préfèrent cette méthode naturelle, surtout l'utilisation des plantes médicinales ou l'homéopathie.
Aujourd'hui, les patients aiment que les praticiens soient à leur écoute et préfèrent les traitements doux car ils aiment le fait de lier leur corps à leur esprit. C'est un effet qui apaise les malades. Par exemple, un praticien d'hypnose commence toujours par vous mettre en confiance et quand vous êtes endormi, il vous parle encore pour calmer votre angoisse et votre stress. En fait, il s'agit de soigner le mal par le bien-être, la détente.
Ainsi, depuis la création de l'humanité, il y a eu plusieurs pratiques pour soigner les malades. Elles s'adaptent de plus en plus aux besoins des patients et au monde qui modernise. Et aujourd'hui, même dans les lieux de médecine traditionnelle comme l'hôpital, on trouve aujourd'hui de la médecine douce.
Mais l'association de la médecine conventionnelle et non conventionnelle va-t-elle donner naissance à une autre forme de médecine liée aux nouvelles technologies?
Merci Marine et Aimé pour ces informations sur la médecine douce. Je pense que cette méthode naturelle peut être beaucoup plus efficace que la médecine conventionnelle. Dans la chronique Tendance, nous nous sommes intéressés aux réseaux sociaux, qui font partie de notre quotidien. Il est vrai qu'ils peuvent représenter un danger, mais ils peuvent aussi nous aider à résister. Alexis et Nicolas ont donc approfondi le sujet.
Résister signifie lutter pour une cause ou contre une idée. Or, à notre époque, les réseaux sociaux font partie de notre société et de notre quotidien, surtout chez les jeunes. Et c'est un nouveau moyen de communication qui se relève efficace pour lutter, par exemple, pour la liberté d'expression. La question qu'on va se poser est comment les réseaux sociaux sont devenus un moyen de résister et de défendre la liberté d'expression.
Dans un premier temps, nous allons expliquer pourquoi les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour résister. Ensuite, nous allons expliquer pourquoi il faut résister. Et dans un dernier temps, nous allons parler des dangers des réseaux sociaux et comment les combattre.
Tout d'abord, un réseau social est un lieu sur Internet dans lequel on peut diffuser des messages à travers le monde et les personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreuses de nos jours. Les réseaux sociaux sont les plus utilisés en 2015, sont Facebook avec environ 1500 millions d'utilisateurs, Instagram, Google+, Twitter, Snapchat et plein d'autres. De plus, un réseau social est efficace car il est instantané et c'est aussi un moyen de communication internationale. En quelques secondes, on peut échanger avec une personne qui se trouve à des millions de kilomètres. Les réseaux sociaux ont vraiment révolutionné le monde en cassant les frontières et les barrières. En un clic, n'importe qui peut diffuser un message et les internautes peuvent aussitôt le partager, le commenter. Ce qui rend les réseaux sociaux encore plus efficaces, c'est qu'on peut y accéder de n'importe quel lieu et sur n'importe quelle plateforme, grâce à la Wi-Fi, au téléphone portable, aux tablettes et plein d'autres supports électroniques.
Ensuite, résister est important aujourd'hui car notre société est dominée par la violence. Partout dans le monde, il y a des guerres et des attentats terroristes. Le but de la guerre et du terrorisme est de dominer en semant la terreur et la peur partout. La conséquence est que cela divise les gens, ça casse la fraternité et crée une société individualiste où les gens ont peur l'un des autres. Mais heureusement, les réseaux sociaux permettent de créer une solidarité, un lien entre tous ceux qui veulent résister grâce à des logos, des messages dans le monde, des moyens de confirmer la liberté d'expression et de contourner la censure. Par exemple, le printemps arabe est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité des variables qui se sont produites dans de nombreux pays du monde arabe de décembre 2010. L'expression de printemps arabe fait référence au printemps des peuples de 1848 auquel il a été comparé. Certains vont jusqu'à parler d'une révolution Facebook. Comme autre exemple, il y a des hashtags plus particulièrement sur Twitter liés à notre actualité. Parmi ces hashtags, il y a « Je suis Paris »,« Not » In my name.
Il y a malgré tout des dangers sur les réseaux sociaux. Ces dangers sont dus à l'anonymat et donc des fausses informations peuvent circuler, mais aussi il y a le risque de se faire manipuler, comme tomber dans le radicalisme et plein d'autres dangers encore. Ceci dit, il y a quand même des moyens de combattre ces dangers. Ces moyens sont de vérifier ses sources, c'est-à-dire de prendre l'habitude de s'informer sur plusieurs sites et de ne pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. De mettre en place un contrôle des parents, d'en parler avec ses proches et ne pas s'isoler.
Pour conclure, les réseaux sociaux permettent de résister avec plusieurs mesures mises en place, comme la création de logos adaptés à la situation, des slogans, des partages. Malgré les dangers qui existent, c'est un moyen vraiment efficace pour résister car il permet de créer un lien de la solidarité entre nous, un lien universel.
Merci beaucoup Alexis et Nicolas. Maintenant, je sais que les réseaux sociaux peuvent être une arme efficace contre certains régimes, mais peuvent aussi être dangereuses. Et pour finir avec Brandon et Valentin, nous avons voulu vous montrer dans la chronique Loisirs que le bénévolat est aussi une forme de résistance.
Bring the action.
En premier, nous allons vous expliquer ce qu'est un bénévole. En second, nous allons vous expliquer les principales motivations des bénévoles. En dernier, les différentes formes de bénévoles.
Qu'est-ce qu'un bénévole ? Un bénévole est une personne qui s'engage dans une association sans être rémunérée. Elle apporte ses connaissances et son savoir-faire pour être au service des autres. C'est aussi un moyen pour les bénévoles d'acquérir d'autres compétences, mais aussi de s'épanouir tout en s'occupant de leur temps libre. Le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 14 millions en France. 77% seraient réguliers. À Dreux, il en recense 350 associations diverses.
Quelles sont les principales motivations des bénévoles ? Les principales motivations des bénévoles, c'est à la fois leur humanité, le désir d'aider les autres, mais aussi d'être utile aux autres. Certains sont devenus bénévoles pour des raisons personnelles, pour sortir de leur propre isolement. D'autres le font pour des raisons altruistes ou par conviction religieuse.
Le bénévolat est aussi l'occasion de contribuer à un mouvement collectif et à l'évolution de notre société. Il permet de tisser de nouvelles relations enrichissantes entre les bénévoles et les autres personnes. On peut acquérir des nouvelles compétences qui peuvent servir dans la vie professionnelle.
Brandon, peux-tu nous donner des exemples d'engagement ?
Un bénévole peut aussi s'engager pour pratiquer ou enseigner un sport ou une activité culturelle, défendre une cause, faire respecter ses droits et ceux des autres, rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations, acquérir ou exercer une compétence ou un savoir-faire transférable au milieu professionnel, s'épanouir et renforcer l'estime de soi, avoir accès à des renseignements ou des services, obtenir une reconnaissance.
En général, l'engagement bénévole permet de rendre gratuitement des services aux personnes dans le besoin. C'est la façon de résister et de lutter pour une meilleure condition de vie. Les bénévoles, en s'engageant, s'épanouissent énormément. Quelles sont les différentes formes de bénévoles ? Dans le bénévolat, il y a différentes formes. Il peut s'exercer dans les associations. Dans ce cas, on peut parler de bénévolat formel. Il peut s'exercer aussi à titre informel, entre famille ou amis. Il existe aussi un autre type de bénévolat, les volontariats, qui s'exercent dans des associations internationales. Les missions que les bénévoles peuvent exercer sont diverses et variées. Cela peut aller de la visite en établissement à la gestion administrative. Chacun peut trouver la mission qui lui correspond.
Bien trouvé, Valentin. Par exemple, dans l'association Radio Grand Ciel, les bénévoles exercent plusieurs choses différentes, comme parler à la radio ou technicien.
Et qu'en pensez-vous ?
Je pense que le bénévolat est une bonne idée pour les personnes qui ont du temps à donner.
Le bénévolat est très bénéfique personnellement car nous pouvons acquérir des compétences, mais aussi il peut être bien pour aider les autres.
Merci Brandon et Valentin. Je ne savais pas que autant de personnes donnent leur temps libre pour des causes justes. Maintenant, c'est la fin de l'émission de radio. On espère que ça vous a plu et qu'on a réussi à vous faire comprendre que la résistance n'appartient pas qu'au passé et que même de nos jours, la résistance reste importante. Rendez-vous à la prochaine émission de radio. Merci.